What we've achieved in our negotiations with Japan is what I describe as a British-shaped deal. So this will benefit sectors like technology, like the creative industries and food and drink. We've achieved something significantly beyond what the EU has agreed in terms of tariffs as well.
Il y a du sourire dans cette voix. Elle, c'est Liz Truss, la ministre britannique du commerce international. Mais oui, en pleine crise avec Bruxelles, Londres annonce un accord commercial avec Tokyo, majeur, historique, mieux que ce qu'on avait avec l'Europe. Bon, ce dossier Brexit, il est passionnant, n'est-ce pas, hein ? Peut-on sortir du club ? 450 millions de consommateurs, quand même. Pour le meilleur et pas pour le pire. Et puis maintenant, peut-on se conduire comme une brute pendant son divorce et quand même attirer de nouveaux partenaires ? Alors ce matin, deux chiffres qui intéressent des millions d'entreprises britanniques. L'accord avec le Japon, il doit améliorer le PIB, la richesse nationale, de 0,07%. Un no deal avec l'Europe, eh bien ça ferait chuter le PIB de 5%, c'est ce qu'a dit la Banque d'Angleterre. La suite aussi, elle paraît bien compliquée. Hein. Le Royaume-Uni veut violer le traité de divorce avec l'Union européenne. Eh bien, les États-Unis ne signeront aucun deal avec Londres. C'est ce que dit la présidente de la Chambre des représentants. Le Parlement européen, lui, s'apprête à bloquer tout traité commercial. Alors, Global Britain promet toujours le punk Boris Johnson. Mais pour l'instant, c'est nos futurs.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est samedi, c'est Économie, le magazine est réalisé par Juliette Gou, l'attaché de production s'appelle Valentin Pérez. Ce samedi à la technique, Louis Audebert nous accompagne. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et nous allons vraiment beaucoup parler d'emploi. Cette semaine, Auchan, General Electric, Beneteau, on a encore des suppressions de postes en vue. Alors faisons-nous tout ce qu'il faut pour éviter trop de casse sociale. Les débatteurs sont là, à mes côtés, chacun avec sa grille de lecture. Bonjour Laurent Bigorgne, le directeur de l'Institut Montaigne.
Bonjour.
Et bonjour à vous Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques.
Bonjour à tous.
Christian, je sais que vous êtes comme moi, le dossier Brexit,
ça vous passionne. Je trouve ça fascinant, je pense qu'on est en train d'assister, peut-être, mais je pense vraiment qu'on est en train d'assister à ça, l'autodestruction du premier centre financier mondial. Quand vous rajoutez Hong Kong et la Chine, je pense que dans 10-15 ans, on va réécrire...
Vous pensez que ça détruit la City, là, ce qui est en train de se passer ?
Je pense que c'est en train de commencer à détruire la City. Première place financière mondiale devant les États-Unis. Hein, c'est là que ça se passe, vraiment, le cœur de la finance mondiale. Je pense qu'on est en train de détruire la City et je pense qu'avec Hong Kong et la Chine, on est en train de détruire un autre grand centre financier mondial. Dans 10-15 ans, on réécrit l'histoire de la finance internationale.
L'ancien premier ministre Gordon Brown, il parle d'automutilation à propos de, c'est un mot très fort, à propos de ce qui est en train de se passer sur les traités de divorce et commerciaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laurent Bigorgne ?
Un clin d'œil pour souhaiter avec Christian que Paris et la place de Paris bénéficient de cette automutilation de la City. Je
m'en réjouis avec business, lui. Tout de suite. Hein.
Je m'en réjouis avec lui.
On se réjouit quand même si ça nous fait de la richesse. Non, Christian, quand même. Allez, on se retrouve, Laurent, Christian, dans une poignée de secondes pour le débat. Dans la lutte contre le chômage, on entend que l'on pourrait reconvertir certains salariés vers des métiers d'avenir, transformer par exemple un maçon en mécanicien de voiture électrique. Est-ce que ça marche ? Vous entendrez le reportage de Caroline Pommès. Le dossier emploi, le climat social, le télétravail aussi. Ce matin, notre invité est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Rendez-vous pour l'interview à 9h45. Et juste avant 10h, ce sera ma vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
C'est Jean-Pierre qui vous a écrit.
Oui, Jean-Pierre, qui a une question sur les territoires zéro chômeur de longue durée qui revient à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Et la question de Jean-Pierre, c'est faut-il étendre cette expérimentation un peu, beaucoup, passionnément? Je vous le dirai tout à l'heure.
Rendez-vous tout à l'heure, juste avant 10h, tout de suite, le débat pour l'emploi. Bah tiens, justement, Sandrine, est-ce qu'on en fait trop peu, assez ou carrément trop?
Il y a plus de 700 000 emplois qui ont été détruits au cours du semestre.
Daniel Cohen, professeur d'économie à l'École normale supérieure.
C'est-à-dire plus que tout ce qui a été créé depuis 2017. C'est un cataclysme hallucinant. C'est-à-dire que le premier trimestre, qui n'a pas été le plus touché, a fait plus de dommages que mai 68 avec ses grandes grèves.
Quel avenir pour General Electric à Belfort ? Ce matin, on apprenait que le groupe va à nouveau tailler dans ses effectifs.
Il y a des plans sociaux qui sont nécessaires parce qu'ils vont permettre à l'entreprise de rebondir.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
Et puis, il y a d'autres plans sociaux qui sont des plans sociaux d'aubaine. Ces plans sociaux d'aubaine ne sont pas acceptables.
Moi, je ne suis pas contre qu'on relance la machine économique. Qui pourrait être contre alors qu'il y a des suppressions d'emplois par milliers en ce moment ?
Laurent Berger.
Les salariés, les travailleurs, ils veulent que leur entreprise fonctionne.
Secrétaire général de la CFDT.
Mais ils veulent que si aide publique il y a, et il y a aide publique, et il y a aide publique massive, elle serve concrètement au maintien de l'emploi, à la redistribution des richesses.
Nouveau plan, un de plus de réduction d'effectifs chez Auchan. 1475 postes supprimés.
Alors que la pandémie de Covid-19 repart clairement à la hausse, le gouvernement a décidé de maintenir le filet de sécurité financier dont bénéficient les Français qui travaillent et les employeurs.
Le dispositif d'activité partielle longue durée qui permet par un accord d'entreprise de réduire l'activité et puis de profiter de ce temps non travaillé pour se former, pour que l'entreprise garde les emplois, les compétences et même renforce ses compétences.
Elisabeth Borne.
Je vous confirme qu'on va maintenir le niveau de prise en charge jusqu'à l'été prochain.
Ministre du Travail.
On peut soutenir l'emploi, mais on n'a pas non plus envie de faire vivre sous perfusion des entreprises zombies.
Stéphane Carcillo.
On voit déjà que dans les secteurs qui sont très fortement impactés par la crise, l'hôtellerie, la restauration.
Économiste du travail à l'OCDE.
Des entreprises commencent tout simplement à licencier malgré le chômage partiel, parce qu'elles se disent, bon, en fait, 2021 va être encore catastrophique parce qu'on n'a pas de touristes, donc de toute façon, à quoi bon continuer hein, et voilà, on espère que ça va tenir, mais c'est pas évident.
Laurent Bigorgne, je me tourne vers vous. L'emploi, est-ce que vous nous faites la photo ce matin ? Allez-y.
Oui, en deux mots, on a regardé les deux premiers trimestres, évidemment avec énormément d'intérêt. On a perdu, vous savez, près de 580 000 emplois en net depuis le début de l'année. Privé et public, et on a une INSEE qui nous dit qu'à la fin de l'année, on sera remonté à un taux de chômage de près de 10%. On devrait être à 9,5%. On prend tout ça avec des pincettes.
C'est à peu près le chiffre de 2012, hein, je crois.
Ça peut être un peu mieux, ça peut être pire. Ce qui veut dire qu'on a effacé tous les bons résultats du début de quinquennat, et qui avait commencé d'ailleurs sous le quinquennat précédent. On était tombé à 7,1% de taux de chômage. On va remonter à 9,5%. Et ce que nous dit la Banque de France, c'est que si tout se passe bien, vous voyez ce que on peut mettre derrière comme
hypothèque. Vous pensez vaccin, vous pensez traitement, vous pensez pas de retour de la pandémie, pas de confinement.
Si tout se passe bien, stabilisation en 21 et au mieux redémarrage en 22. Donc je pense qu'il faut regarder ensuite les secteurs. On a entendu Stéphane Carcillo, c'est vrai qu'il y a des secteurs qui vont très mal, comme l'hôtellerie, l'hébergement, donc la restauration, les cafés, etc. Mais l'industrie va pas bien. L'emploi intérimaire reprend tout juste, ce qui est normal, il est toujours le premier à reprendre. On est à peine sur une stabilisation dans la construction. Il y a une résilience assez forte de eau, énergie, déchets, mais c'est normal. Mais l'économie française est extraordinairement fragilisée. Il faut absolument passer d'une logique où on a cherché à soutenir, à maintenir, à une logique où on relance. Et c'est évidemment tout l'objet du plan qui est présenté et des mesures sans doute à venir du point de vue du marché du travail.
Christian, pour compléter la photo, allez-y.
Ouais, pas tout à fait la même photo que Laurent. La Banque de France nous dit qu'à la fin de l'année, on sera à 4% en dessous de la croissance qu'on aurait eu si on avait eu d'activité normale. Vous avez des gestionnaires qui vous disent oui, même 2-3 points. Donc, c'est vrai que sur l'ensemble de l'année 2020, on va avoir une récession, mais en fin d'année, finalement, on sera pas si loin déjà. Évidemment, sauf si la pandémie et on reconfine tout ça. Mais sinon, on sera pas si loin de l'activité normale, entre guillemets, de la France. Moi, ce que je relève, c'est que l'emploi, on a détruit beaucoup d'emplois au cours des deux premiers semestres. Mais la baisse de l'emploi, ça a été 2,8%. Alors que, vous rappelez les chiffres qu'on a eu de croissance au premier trimestre, deuxième trimestre, des baisses de 13%, de 14% de l'activité. Donc on a beaucoup moins baissé l'emploi. L'emploi a été beaucoup moins détruit que ne l'activité n'a été détruite. C'est la première leçon importante pour les semaines qui viennent. La politique publique peut être efficace. Il y a une deuxième chose que personne n'a relevé, me semble-t-il, dans les commentaires. Il s'est passé quelque chose au deuxième trimestre. 57 000 emplois publics perdus. Parce qu'on parle beaucoup de l'économie, mais 57 000 emplois publics perdus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la montée du chômage, il y a des emplois, il y a des emplois perdus.
Quels emplois ?
Je vais vous dire, parce que du coup, ça m'a inquiété. Oui. Et j'ai demandé à l'INSEE, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails. Quels sont ces emplois que la puissance publique, qui nous dit lutter contre le chômage, a détruits ? D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont principalement, évidemment, les vacataires et les contractuels qui n'ont pas été réembauchés. C'est le gel des embauches. De la fonction publique territoriale, d'abord. Un petit peu, en moindre mesure, les fonctionnaires d'État. Alors que le nombre de fonctionnaires dans la santé a augmenté. Ça veut dire que les 57 000, c'est alors que ça a augmenté beaucoup dans la santé. C'est-à-dire que les autres fonctionnaires ont beaucoup plus perdu. Deuxième enseignement, et ça touche aussi l'école. ça touche aussi l'école. Deuxième enseignement, si le gouvernement veut vraiment éviter la montée du chômage, il faudra aider les collectivités locales et les écoles à pouvoir embaucher. Et enfin, là, je suis pas tout à fait d'accord parce que l'INSEE, avec Laurent, l'INSEE nous dit oui, il y a des secteurs qui vont pas bien, mais plutôt la construction, plutôt l'industrie va réembaucher. C'est pour ça que l'INSEE nous dit normalement, on va pas perdre, on va pas gagner. Enfin, on va gagner les emplois, les pertes, mais ce sera stable sur le deuxième semestre.
Alors, c'est intéressant cette photo, parce que quand même, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément, donc déjà, de différences entre vous deux quand même sur l'analyse, et puis il y a du contraste. Pourquoi dit-on que on en est là maintenant, mais ça ne peut que s'aggraver, et notamment à partir des mois d'octobre, novembre? Pourquoi est-ce qu'on nous annonce une vague de défaillance?
Parce qu'on anticipe effectivement une vague de difficultés économiques, et j'introduis une nuance dans la nuance. Les 57 000 emplois de fonctionnaires qui sont perdus sont des emplois effectivement essentiellement de contractuels, de vacataires. C'est évidemment pas des fonctionnaires titulaires qui seraient sortis de la fonction publique, ça va sans dire. Enfin, c'est un dixième de la masse des emplois perdus. Donc, moi, mon regard, il est d'abord et avant tout tourné vers le secteur privé et effectivement la façon de sortir de cette très mauvaise passe. Alors pourquoi est-ce qu'on va être face à énormément de défaillances? Tout simplement parce que il y a des anticipations d'acteurs très rationnels. On disait aussi dans le petit son avant le débat, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent bon, on a tenu à bout de bras avec des dispositifs qui ont été des dispositifs plutôt efficaces. Et je suis en accord avec Christian sur le fait que le chômage partiel a permis d'éviter qu'il y ait un alignement du taux de chômage sur l'effondrement de l'activité économique à des niveaux qu'on n'avait jamais connus. Bon, très bien, ça c'est dit. Mais une fois qu'on sait ça, c'est qu'il y a des gens qui se disent aujourd'hui, mais 2021, dans certains secteurs, va être durablement difficile. Et donc, on lâche, on peut plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, c'est ce phénomène d'entreprise zombie. Et puis, il y avait des entreprises qui
Il faut expliquer zombie. Il faut expliquer zombie. Allez-y.
Si vous voulez, vous avez des entreprises qui aujourd'hui vivent sans chiffre d'affaires ou presque, qu'on maintient à travers soit des garanties d'emprunt, soit à travers des mécanismes de chômage partiel. Et ces mécanismes, on a entendu la ministre là aussi dans le son tout à l'heure, on y reviendra sans doute, vont être maintenus, étendus et je pense densifiés. Et puis vous aviez des entreprises qui avant la crise n'allaient déjà pas très bien. Ce qui est normal, puisque on détruit chaque année naturellement des emplois dans l'économie française, d'ailleurs dans toutes les grandes économies. Et donc ces entreprises qui n'allaient pas très bien, elles vont pas mieux avec la crise, et il faut pas les maintenir artificiellement et à tout prix en vie.
Christian, est-ce que c'est ça le risque? Est-ce que le risque c'est de protéger l'emploi et de zombifier notre économie? Non, mais ce qui est grave quand même de maintenir en vie des entreprises.
Les entreprises zombies, si on veut une définition un peu plus économique, c'est les entreprises qui, avec les profits qu'elles arrivent à dégager ou pas, n'arrivent pas à rembourser leurs dettes. Et donc à un moment donné, voilà. On a peu de chiffres. Et la Banque des règlements internationaux, c'est une institution internationale très peu connue, c'est la Banque centrale des banques centrales, vient juste de nous sortir une étude sur les entreprises zombies, notamment sur les entreprises zombies en France.
Ces derniers mois.
Ah, c'est une étude qui porte sur des années 80 à 2017, et l'étude, elle est sortie là, il y a 5-6 jours. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en France, les entreprises zombies, c'est à peu près 15% des entreprises. Donc c'est quand même pas négligeable, 15%. Sauf que, quand on regarde sectoriellement, que nous dit la BRI? Elle nous dit que les entreprises zombies, c'est dans le secteur des matières premières, de l'édition et de la santé. On peut penser que dans la santé, ça va aller un peu mieux depuis que l'étude s'est arrêtée. Surtout, moi, ce que je retiens, c'est que 60% des entreprises zombies reviennent à la vie. C'est plus des morts vivantes, c'est des vraies vivantes. Elles sont pas très productives, elles ont du mal à embaucher, ça, mais elles reviennent à la vie. Il y en a qu'un quart qui disparaissent. Donc, aider des entreprises qui, pour 60% d'entre elles, peuvent revenir à la vie, moi, ça me choque pas. Et en plus, c'est vrai que Laurent entretient les anticipations négatives, j'ai envie de dire, en disant, on va avoir plein de faillites, on va avoir plein de chômage. Alors que Bercy nous dit quoi? Au mois d'août, les rentrées d'impôts sur les sociétés, c'était pas si mal. Les rentrées, ça veut dire que les entreprises fonctionnent pas si mal. En tout cas, une partie. Les rentrées de TVA, c'est pas si mal. Ça veut dire que les gens continuent à consommer au mois d'août. Donc, il n'y a pas que des éléments négatifs.
Laurent.
Il n'y a pas que des éléments négatifs. Ensuite, quand on regarde la confiance des acteurs, on en a parlé. Vous interrogez les ménages, ils sont sur des anticipations à plusieurs mois s'agissant de leur emploi, de leur pouvoir d'achat qui sont pas bonnes.
Est-ce que c'est justifié? C'est ça ma question. Oui, est-ce que ces anticipations négatives sont justifiées?
C'est très bien qu'en économie, c'est ce qui va compter. C'est la façon dont les ménages et les acteurs voient la situation et pas la réalité des faits ex post, constatés ex post.
Je reviens à l'emploi. Comment, donc vous dites, il y a des plans sectoriels, on soutient l'automobile, on soutient l'aéronautique. Comment comprendre, c'est vrai que ça peut interroger ça les auditeurs, comment comprendre qu'il y ait des plans sociaux dans des secteurs qui sont pourtant soutenu massivement par de l'argent public? Laurent.
Tout simplement parce qu'il y a des entreprises qui arrivent au bout d'un cycle. Il y a des entreprises où il n'y a plus de rentabilité de long terme, il n'y a plus de profitabilité, il y a un saut technologique qui a été fait. On peut prendre des exemples dans l'automobile, évidemment. Vous voyez très bien que tous ceux qui opéraient sur le diesel, par exemple, vont être face à des choix qui ont été faits, qui sont des choix publics, qui renvoient à un casino futur s'agissant de ces industriels-là. Donc, il faut pouvoir soit se reconvertir, soit utiliser le capital pour en faire autre chose. Ce cycle-là, il est normal dans l'économie. Et je pense que c'est pas en cherchant à freiner ça qu'on aidera l'économie française et les salariés. Parce qu'à la fin du jour, je crois que si on veut aider les salariés, si on veut les protéger, il y a deux choses à faire. D'abord, il faut pouvoir les former. Et parlons-en, je crois, quelque chose d'absolument essentiel. Et puis, il faut pouvoir favoriser la création d'emplois et de nouveaux emplois.
Non, juste un mot quand même. Ouais. L'INSEE nous dit sur le premier semestre, 715 000 emplois détruits. Et les plans sociaux jusqu'à présent, nous a dit la ministre du Travail cette semaine, 50 000 emplois. Donc oui, bien sûr, c'est normal que ça fasse la une, ces 50 000 emplois perdus de trop. Mais 715 000 emplois perdus, 50 000 plans sociaux, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? Il y a des entreprises qui, grâce à la politique publique, arrivent quand même, alors qu'elles sont en difficulté, à s'en sortir. Et là, on a vraiment l'activité partielle. L'activité partielle de longue durée, mais c'est un truc incroyable.
Ah, il faut nous expliquer ça.
Alors, l'activité partielle de longue durée, c'est quand même incroyable.
Là, on est dans les mesures, donc on a beaucoup parlé du filet de sécurité, mais là, on est dans les nouvelles mesures. Le volet emploi, compétences du plan de relance.
Vous êtes une entreprise aujourd'hui, vous êtes comme Laurent Bigorre, vous vous dites, oh là là, anticipation négative, est-ce que j'aurai des clients? Est-ce que je vire mes salariés ou pas? Le gouvernement vous dit, vous avez jusqu'à l'été prochain pour décider que de 6 mois à 2 ans, 2 ans, ça vous met à plus de 2022, d'accord, ça vous permet de garder vos salariés avec les salaires payés en grande partie par le gouvernement. Si vous êtes incertain, honnêtement, gardez vos salariés, c'est l'État qui paye en grande
et
partie les salaires.
Et l'État paye la formation des salariés.
Et en plus, il y a de la formation. Vous pouvez garder les gens en emploi.
Excellent outil.
Je pense que ça va nous permettre d'avoir moins de chômeurs.
On a dit la semaine dernière, c'est un très bon outil.
Et pour les jeunes, on n'a pas encore parlé des primes pour les embauches. Est-ce que c'est une bonne idée, jusqu'à 8000 euros pour embaucher un majeur en alternance, par exemple, aider les 16-25 ans comme ça? Est-ce que là, le gouvernement a le bon outil aussi?
Plus un autre outil que vous avez oublié, Alexandra, c'est 120 000 emplois aidés. Vous savez, ces emplois pourris que nous disait Monsieur Édouard Philippe quand il était Premier ministre, que ça servait à rien, c'était le plus inefficace. L'ancienne ministre Ravine, c'était le plus la politique publique la plus
c'est ce qui est pas faux,
c'est archi faux, bien évidemment, parce que c'est
dans la circonstance actuelle, mais c'est
il
pas
lui
des emplois
laissé parler, hein.
Vous allez y arriver, c'est le débat, vous inquiétez pas.
Allez, Christian, allez-y.
120 000 emplois aidés alors que le gouvernement nous avait détruit ce genre de truc, il qui
pas
comprend
détruit,
aujourd'hui
diminué.
Il nous avait largement diminué, quasiment annulé les emplois aidés. Aujourd'hui il nous dit que c'est quand même une politique d'emploi qui coûte pas très cher. Moi, ma seule crainte sur l'alternance, sur les jeunes, tout ça c'est bien, c'est des bonnes mesures, mais ma seule crainte c'est qu'on change la file dans le chômage, c'est-à-dire plutôt que d'embaucher quelqu'un que vous allez embaucher en intérim en CDD, vous allez prendre un jeune ou un alternant, et celui qui aurait été embauché va se retrouver au chômage. C'est une bonne politique, mais c'est ma crainte.
Laurent, je vais vous entendre sur les contrats aidés.
Oui, sur les emplois aidés, on sait tous que les emplois aidés dans le secteur non marchand sont vraiment un pis-aller. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à aller chercher le type d'individu qu'on veut cibler avec ce genre de dispositif. Michel Sapin nous avait dit au début du quinquennat précédent, les emplois aidés, ça nous permettra d'aller chercher des non-qualifiés. Dans la FIG, on retrouvait qui? Essentiellement des qualifiés qui auraient pu trouver.
Il y a deux types d'emplois aidés, un pour les qualifiés plutôt marchands et deux pour les qualifiés non marchands. Et pour les qualifiés dans le non marchand, ça marche très très bien. Je suis désolé, ça leur met le pied à l'étrier.
Ça marche pas.
Études de la DRS.
Ça marche pas bien et c'est très cher. Alors,
non. Et sur les jeunes alors?
Ça, c'est faux.
Sur les jeunes, je pense que on est face à un dispositif qui méritera, à mon avis, sans doute d'être renforcé. On verra dans les mois qui viennent, surtout au bénéfice de l'apprentissage. Mais je vais vous dire, pour ce qui concerne l'apprentissage, on a fait beaucoup mieux depuis le début du quinquennat, puisqu'on a passé la barre du demi-million d'apprentis. On a fait 50 000 apprentis de plus. Ce qui me soucie, c'est qu'on a un mal fou sur les apprentis les moins qualifiés. C'est-à-dire qu'on est très très fort en France pour faire des apprentis d'enseignement supérieur, bon, très bien. Moi, ce qui m'intéresse économiquement, c'est évidemment la formation des moins qualifiés. Et là, je crains énormément que la crise, y compris parce que les secteurs où on a ces apprentis les moins qualifiés ne vont pas bien, par exemple l'hôtellerie-restauration, je crains énormément que la crise tende les choses. Et il va falloir être particulièrement vigilant pour ces populations. Et je souscris à quelque chose que vient de dire Christian. Le danger de tous ces mécanismes, c'est qu'on est à un moment où tous ceux qui sont un peu plus forts, un peu mieux formés, qui vont être aidés, risque de passer dans la file d'attente devant ceux qui vont pas bien.
Bon, Point d'accord. Dans cette crise, dans ce débat sur comment sauver des emplois, on a vu ressurgir comme régulièrement la question du temps de travail. Il y a du temps de travail. Alors il y a ceux qui veulent l'allonger, il y a d'autres qui aimeraient le raccourcir. Cette semaine, dans le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, je lis que des entreprises sont en train d'adopter la semaine de 4 jours. Vous savez bien que la discussion, elle existe aussi outre-Rhin. Alors los, on file à Berlin.
Wegen der Corona-Pandemie wird immer häufiger diskutiert, ob es in Zukunft eine 4-Tage-Woche geben soll. Die Gewerkschaft IG Metall fordert jetzt eine verringerte Arbeitszeit ohne vollen Lohnausgleich ein.
Bonjour David Philippot.
Bonjour à tous.
David, vous êtes correspondant de France Inter en Allemagne. Alors, il y a moins d'un mois, c'est le syndicat de la métallurgie, le puissant IG Metall, qui a relancé cette idée de la semaine de travail de 4 jours. Et tout le pays est entré dans le débat. Dites-nous aujourd'hui, David, vous en êtes où en Allemagne ?
Écoutez, ce débat s'est un peu enlisé dans les sables de l'été. Petit rappel pour ceux qui lézardaient sur leur serviette à la mi-août, c'est Jörg Hoffmann qui veut placer la semaine de 4 jours au cœur des futures négociations de branche qui auront donc lieu au printemps prochain. C'est donc le chef d'IG Metall, le syndicat inventeur des 35 heures, donc parfaitement dans son rôle. Dans la foulée, l'extrême gauche embraye. Le parti Die Linke met en avant les besoins des salariés mis en évidence par la crise du corona. Selon le principe, laisser aux familles assez de temps pour s'occuper des enfants et des seniors. Tout le monde est d'accord, sauf que l'affaire patine sur les compensations salariales. L'extrême gauche propose la semaine de 30 heures sans perte de salaire. IG Metall va moins loin et réclame que les patrons fassent un geste et compensent un peu la baisse des heures travaillées. Mais là, c'est un chiffon rouge, tabou pour les fédérations patronales. Cela ne fera qu'empirer, je cite, l'énorme choc de productivité subi en ce moment. Tempête un de ses représentants. Et d'ailleurs, que voit-on dans les entreprises allemandes sur le terrain ? Bosch ou Daimler ont conclu cet été des accords de réduction du temps de travail avec à la clé de gros sacrifices financiers pour les salariés. À la table des négociations, les employeurs utilisent l'argument massue du plan de licenciement. IG Metall essaie de reprendre la main, mais le débat pour l'instant est clos.
Donc pas de partage du travail, pas de semaine de 4 jours. Mais vos outils anti-chômage, David, globalement ce sont les mêmes qu'en France, ceux dont nous avons parlé là dans le débat ?
Alors vous voulez dire, Alexandra, qu'en France ce sont les mêmes qu'en Allemagne, parce que ce dispositif du chômage partiel, testé pour vous lors de la crise de 2008, est assez largement, il faut le dire, repris en France cette fois-ci. Un dispositif prolongé jusqu'en 2022 et un amortisseur anti-licenciement sec qui n'empêche pas les sorties de route. C'est ainsi que le constructeur de camions Mann à Munich annonce la suppression de 9500 postes, soit un quart de ses effectifs, avec notamment, Alexandra, la délocalisation des activités de 2 usines allemandes, des recettes, si vous me le permettez, d'avant la crise.
David Philippot avec nous depuis Berlin. Merci à vous, merci aux débatteurs du samedi, Christian Chavagneux et Laurent Bigorgne. À venir dans la prochaine demi-heure, c'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, l'invité du Mag Éco. Mais d'abord, on reste au chapitre formation. Sait-on, peut-on, doit-on aujourd'hui en France transformer un licencié de l'aéronautique en professionnel, je ne sais pas moi, par exemple, de l'impression 3D. Est-ce que les passerelles, ça existe ? Allez, on sort du studio, nous voici en Moselle, une usine dans la commune de Dieuze. Nous sommes dans un atelier de mécanique, alors attention, pour la protection, il y a le masque et il y a aussi le casque. Bonjour.
Bonjour.
Vous appelez comment ?
Alexandre Hébert.
Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?
Donc là, je suis en train de démonter une batterie pour pouvoir la démanteler après.
D'accord, c'est assez gros. Ça fait quelle taille, ça ?
Ça fait la taille d'un châssis, à peu près. Et ça pèse à peu près entre 400 et 500 kg.
Faut pas se le prendre sur les pieds.
Non. Avant de démonter quoi que ce soit, on fait une VAT. On vérifie s'il y a encore de la tension ou pas dedans.
Et ça prend combien de temps de démonter une batterie de voiture électrique ?
Une batterie comme celle-là, entre 30 et 35 minutes, 40 minutes.
Et vous faisiez quoi avant ?
Maçon. Et j'ai arrêté à cause des problèmes de dos et tout ça, donc... Au chômage, on m'a proposé de faire la formation, j'ai dit oui.
Vous avez quel âge ?
42.
Donc comment ça s'est passé ? Vous êtes allé à Pôle emploi ? Vous avez demandé à faire une formation ?
C'est Pôle emploi qui m'a envoyé ici en entretien. Donc je sais plus, on était une trentaine, je crois. Ils expliquaient ce qu'on avait à faire comme formation, c'était où ? Parce que la formation se passait à Hazebrouck. C'est entre Lille et Dunkerque.
C'est à combien de kilomètres d'ici ?
580 à peu près.
Et vous, ça vous dérangeait pas d'aller à plus de 100 km de chez vous ?
Bah si, mais après, si c'est pour avoir un contrat et un emploi après, donc puis c'est toujours un plus dans la vie, quoi. Une formation de plus, c'est bon à prendre. Et après, bon, bah c'est sûr que c'est un peu dur de partir la semaine, quoi. Je suis jamais parti, mais bon, après, il faut le faire. En gros, j'ai fait 2 mois et demi parti, puis le reste ici en entreprise, quoi.
Et là-bas, vous étiez logé? Comment ça s'est passé?
Oui, c'est, on est logé dans un dortoir à l'AFPA.
Et vous savez combien elle a coûté, cette formation, en tout?
Ah non.
En tout cas, elle a été prise en charge?
Ah oui, tout a été pris en charge par le Pôle emploi. Moi, j'ai rien déboursé.
Et là, après, qu'est-ce qui se passe après la formation?
Je viens travailler ici, normalement. C'est un contrat qui est prévu après, CDD, et par la suite, si tout va bien, c'est CDI, quoi.
CDI, le mot magique. Sous son casque blanc zébré de traces noires, avec sa grosse visière bulle, Alexandre, l'ancien maçon, est optimiste. De plus en plus de voitures électriques, des camions, des engins, ça va en faire des batteries à démonter pour le recyclage. Ces emplois-là, ceux de demain, ils sont aussi dans le plan de relance. Il y a un volet compétences qui s'adresse aux salariés en activité partielle, aux jeunes, aux demandeurs d'emploi. On y trouve également des mesures pour aider à la reconversion, de préférence donc vers ces métiers d'avenir. Est-ce que le secteur de la formation est prêt? Eh bien, c'est le reportage ce matin de Caroline Pommès qui a quitté l'atelier où se trouve Alexandre pour le bureau du directeur.
Bonjour, Arnaud Chou, je suis le directeur de Eurodieuse Industrie, filiale de Sarp Industrie Veolia. Alors, les premières formations ont démarré courant 2017-2018, suite aux premiers échanges qu'on a pu avoir entre l'AFPA et Pôle emploi également. On a démarré cette filière où il y avait entre 2 et 4 personnes qui se relayaient sur ces postes-là.
Et aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on ambitionne d'être à une dizaine de personnes d'ici la fin de l'année.
8 nouveaux salariés en 2 ans sur 45 en tout, c'est énorme.
Oui, on a connu une très forte croissance de notre effectif sur les dernières années par rapport aux besoins de recyclage, que ce soit sur ces filières de véhicules électriques ou sur la filière lithium-ion, qui sont les deux filières porteuses aujourd'hui chez nous et qui concentrent une grosse partie de nos investissements, en tout cas, pour développer ces métiers d'avenir et ces nouvelles technologies.
Le plan de relance est à fond derrière la transition écologique, derrière la formation. Est-ce que vous, ça va accélérer ce que vous avez déjà mis en place?
Alors, je ne sais pas si ça accélérera. Ça donnera sûrement un coup de projecteur sur cette formation qui permettra peut-être d'élargir le nombre de candidats, puisqu'aujourd'hui, ça reste assez minimaliste sur cette formation. Donc voilà, c'est sûrement ce coup de projecteur qui sera nécessaire à répondre aux besoins qu'on aura, nous, demain, à pouvoir embaucher plus facilement. Donc, vous m'aurez juste de signer avant de sortir.
Ah oui. L'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, a commencé la liste de tous les métiers d'avenir. Recycleur de batteries de véhicules électriques, technicien supérieur en impression 3D, en maintenance d'éoliennes. Mais est-ce que la formation, ça marche? Je suis allée poser la question à Pascale D'Artois, la directrice générale de l'AFPA.
Installez-vous, je vous en prie.
Je m'installe.
Alors, sur ces formations spécifiques expérimentales sur les nouveaux métiers, oui, à 95%, elles trouvent un emploi, notamment parce que nous sommes très proches des entreprises. Nous avons, en général, à l'AFPA, un retour à l'emploi de presque 70% des personnes qui passent par nos centres, qui sont en emploi 6 mois après la fin de formation.
Et est-ce que le secteur de la formation est capable aujourd'hui d'absorber la prochaine vague qu'on va avoir de licenciements et de chômeurs?
Aujourd'hui, j'ai pas cette volumétrie en tête. En revanche, ce que pousse le gouvernement aussi aujourd'hui dans son plan de relance, c'est la modernisation et la digitalisation de la formation. Et on l'a vu pendant la crise sanitaire, nous avons été tous capables de transférer nos formations présentielles en formation à distance. Et c'était très important, évidemment, pour les gens qui étaient en parcours. Donc l'impulsion qui est mise peut évidemment élargir le socle de places disponibles pour accueillir l'ensemble des personnes qui vont devoir se former.
Et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, on pense au secteur automobile qui va très mal en ce moment. Est-ce qu'une personne qui va être licenciée demain dans ce secteur-là, vous pouvez la former à un autre métier comme ça, assez rapidement, en moins d'un an?
On pourrait, on peut, mais enfin, il est important aussi, vous savez, dans la loi, depuis 15 ans, on parle de la personne acteur de son projet professionnel, de son parcours professionnel. Donc il faut aussi que ce qu'on propose corresponde évidemment à ce que la personne a envie de faire. Et on essaye de plus en plus de répondre à la demande sociale. Je vais vous donner un exemple. Quand vous avez des formations qui sont calendées du lundi au vendredi et que vous avez une famille monoparentale qui a 3 enfants... et que vous programmez des formations le mercredi, bah c'est peut-être pas facile d'aller en formation le mercredi. Donc on s'intéresse évidemment beaucoup à la mobilité, c'est-à-dire l'accès au logement, c'est-à-dire, bah, je vous le disais, la monoparentalité, la santé, tout ce qu'on appelle les freins à la formation et au retour à l'emploi. Et ce sont des sujets qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Ça s'appelle la sécurisation des parcours professionnels.
La dernière réforme de la formation date de 2018. Un des grands changements, les salariés ne cumulent plus des heures de formation sur leur CPF, leur compte de formation, mais de l'argent. Sur le papier, ça doit faciliter l'accès à la formation. Mais est-ce que c'est adapté à notre situation de crise? Coralie Pérez est chercheuse au Centre d'économie de la Sorbonne.
Merci de me recevoir.
L'impératif aujourd'hui, c'est de pouvoir soutenir les reconversions professionnelles des salariés qui sont dans des industries menacées durablement. Et probablement, le compte personnel de formation n'est pas le bon instrument pour ça, puisque le crédit est de 500 euros par an capitalisable pendant 10 ans, 800 euros pour les salariés les moins qualifiés. Or, évidemment, le coût des formations est nettement supérieur, même si le gouvernement a prévu d'abonder en partie les projets de formation, notamment dans les secteurs d'avenir. C'est plutôt le dispositif de compte personnel de formation de transition, ou projet de transition professionnelle, qui permet de financer sur un temps long des formations qualifiantes en permettant aux salariés de conserver une rémunération pendant le temps de la formation. Donc c'est plutôt ce type de dispositif-là qu'il faudrait soutenir financièrement. Alors je pense que la formation devrait être envisagée peut-être un petit peu plus systématiquement comme une contrepartie aux aides que donne l'État, particulièrement dans les secteurs et pour les entreprises dont les activités doivent évoluer profondément. Je pense au transport aérien, je pense à l'aéronautique, à l'automobile. Alors dans le plan de relance, il y a des plans de soutien sectoriels. Je n'ai pas lu que la formation allait être une contrepartie aux aides proposées aux entreprises. Peut-être ce seront aux partenaires sociaux et notamment aux organisations représentatives des salariés de défendre cette idée. Il me semble que ce serait de notre intérêt à tous.
Voilà pour Coralie Pérez. Si les entreprises jouent le jeu, si la formation devient une contrepartie aux aides, on pourra éviter trop de casse sociale. Mais à l'OFCE, Institut de Prévision Économique, l'économiste Bruno Ducoudray est plus sceptique.
Oui, allô, Caroline Pommès à France Inter, je suis en bas.
Oui, je descends vous ouvrir.
Merci beaucoup.
On a eu dans le passé des vagues de restructuration industrielle, le textile, les mines de charbon, l'acierie, etc. Donc c'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais à chaque fois, ça pose des problèmes majeurs en termes de politique économique, parce qu'on se retrouve avec des milliers de salariés qui perdent leur emploi et qu'il faut reformer pour les rediriger vers d'autres secteurs d'activité. Et ça, ça coûte très cher, c'est très compliqué à faire et ça marche pas toujours parce que des individus se retrouvent dans des situations où ils sont bloqués, c'est-à-dire qu'ils perdent leur emploi, ils vont faire des formations, mais peut-être que le bassin d'emploi dans lequel ils sont, bah, il est plus dynamique, ils doivent déménager pour trouver un emploi, il faut de la mobilité, mais quand vous êtes au chômage, c'est très compliqué de changer de logement. Enfin, vous avez des questions comme ça qui se posent. Le faire de manière massive, j'ai pas d'exemple qui me viennent là aujourd'hui sur des succès de reconversion de plusieurs milliers de salariés qui basculent d'un secteur d'activité à un autre après quelques mois de formation.
Et pourtant, le gouvernement veut tabler sur ça, sur la reconversion des employés.
On va pas les laisser sur le carreau. On essaie de mettre en place des dispositifs pour les réorienter. Mais l'appropriation et la réussite de ces dispositifs-là n'est pas du tout garantie.
Contre le chômage, le pari de la reconversion des salariés.
Niveau 0.
C'était le reportage de Caroline Pommès.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et l'invité du Mag Écho, c'est le secrétaire général de la CGT qui est dans ce studio. Bonjour Philippe Martinez.
Bonjour.
On va parler de l'emploi bien sûr, mais d'abord une réaction après les annonces sur le Covid. Tout faire pour éviter le confinement généralisé, appeler chacun au sens des responsabilités, prendre des mesures localement. Est-ce que vu du monde du travail, c'est la bonne approche ?
Il faut protéger le monde du travail et on le fait, on se bat là-dessus depuis le mois de mars. Après, il y a quand même des messages qui sont parfois un peu flous, contradictoires de la part du gouvernement, de celui-là et du précédent. Et donc, c'est ce qui pose problème parce que si on prend l'exemple des masques, au mois de mars, il fallait pas en porter et puis parce qu'il y en avait pas.
Mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui les salariés peuvent aller travailler? Du point de vue de la... On se souvient hein, du grand débat au moment du confinement.
Mais pas tous. pas tous, parce qu'il y a des personnes vulnérables et celles-là, faut les protéger. Or, les directions d'entreprise poussent beaucoup pour que tout le monde retourne au boulot. Ça, c'est la première chose. Il y a les questions de l'école, parce que les salariés peuvent être parents d'élèves, et donc ça aussi, ça pose problème. Et puis, il y a la question des protections, parce qu'en fonction des métiers, il faut se protéger, mais il faut des mesures plus fortes. Par exemple, la qualité des masques. On sait que dans les milieux humides, les masques perdent de leur efficacité au bout d'un certain temps. Donc il faut se protéger, mais après il faut faire du cousu main, si je peux me permettre, en fonction des réalités des métiers, etc.
Mais ça se passe bien sur le terrain, plutôt, ce cousu main ?
Pas trop, non, parce que il y a les problèmes de qualité de masque. On le voit dans les écoles, par exemple. Il y a un débat qui est relancé sur le masque, parce que, par exemple, les enseignants doivent le porter. Ils n'ont pas de temps de pause, même en récréation, ils doivent le porter. Donc, se pose. Et puis il y a le renouvellement des masques. Il y a encore des problèmes sur ces. Et puis il y a la question de l'organisation du travail. Travailler toute la journée dans des métiers pénibles avec un masque devant la bouche, ça nécessite des temps de pause où on peut, c'est le cas de le dire, aller respirer.
Alors l'emploi, à propos des suppressions de postes chez General Electric cette semaine, le ministre Bruno Le Maire a dit qu'il n'accepterait pas les décisions d'aubaine. Est-ce que vous, sur le terrain, la CGT, vous en voyez beaucoup des restructurations qui n'ont pas de rapport avec le Covid ?
Oui, il y en a les trois quarts. C'est-à-dire que on est comme avant, quoi. Dès qu'il y a un problème, alors je ne sais pas s'il est petit ou gros, on licencie d'abord et on réfléchit après. Ben, nous, on propose de réfléchir d'abord. Et après, de prendre des mesures en fonction des réalités.
Où ça ? Vous pensez à qui ?
Regardez ce qui se passe chez Auchan, par exemple. 1500 suppressions d'emplois. Tout le monde sait que le secteur de la distribution, et notamment la distribution alimentaire, n'a pas souffert de la crise du Covid et du confinement. Bien au contraire. Eh bien, là, ça devrait être formellement interdit. Il devrait y avoir un veto du gouvernement sur ce genre de licenciement. Mais on pourrait prendre le cas de l'aéronautique. Airbus a reçu des aides. Le problème de l'aéronautique aujourd'hui, c'est que les avions ne volent pas. Mais les carnets de commandes sont pleins chez Airbus. Il y a plus de commandes aujourd'hui qu'il n'y en avait l'année dernière. Or, là aussi, on a donné de l'argent. Et plutôt que de trouver des mesures, on pourrait parler de formation, il y a le chômage de longue durée, etc. Ben, on licencie, notamment dans les milieux d'ingénierie d'ailleurs. Ce qui va amputer la capacité de l'entreprise et donc de ses salariés de préparer l'avenir. Parce que quand on licencie des ingénieurs, des chercheurs, on travaille pas sur l'avion du futur, etc.
Donc, le débat sur les contreparties, je sais pas comment vous appelez ça, vous contreparties, conditions pour
conditions,
bénéficier.
C'est simple, conditions, c'est-à-dire.
Vous demandez quoi exactement?
Je te donne de l'argent ou je te prête de l'argent à condition que tu trouves d'autres mesures que le licenciement de tes salariés. Or, de ce point de vue-là, on parle de contrepartie, mais les contreparties, on verra plus tard. Et le ministre de l'économie, je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup, qu'il va se fâcher tout rouge quand une entreprise comme General Electric, mais d'autres, depuis le début du quinquennat, il y a eu quelques entre guillemets coups de gueule de Monsieur Le Maire, mais sans effet sur l'emploi et sur l'avenir des entreprises.
Quand même, quand on a une filière, je pense à l'aéronautique, où on se dit que on ne sait pas où ça va aller. On ne sait pas, les carnets de commandes, pour l'instant, ils sont là, mais on ne sait pas après comment sera le paysage aérien. Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'il faut garder tout l'effectif ?
Mais pourquoi il faudrait en supprimer ? Moi, je vous renverse la question. Il y a des mesures industrielles, c'est-à-dire comment on prépare l'avenir, et comment on travaille la question du transport en général, la complémentarité entre le rail, l'aérien et la route, par exemple. On vient de remettre un commissariat au plan. C'est ça qu'il faut faire. Mais la solution, c'est d'abord de licencier, puis après de réfléchir. C'est quand même assez aberrant que ça soit toujours les salariés qui payent les pots cassés de stratégies d'entreprise qui sont, on va dire, aléatoires.
Et plus globalement, le plan de relance, il y a eu des plans sectoriels, donc il y a le plan de relance, 15 milliards sur l'emploi et la formation. Là, les débatteurs, vous avez entendu le débat, ils ont plutôt délivré un satisfecit au gouvernement. Ça peut sauver des emplois. Vous en pensez quoi ?
C'est pas un plan de relance. Nous, on a appelé ça un plan de continuité. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'aides. Enfin, d'aide aux entreprises, c'est des dizaines de milliards qui vont aux entreprises. Les seuls points positifs, avec quelques petits guillemets, c'est la poursuite des aides pour le chômage de longue durée. Ça, c'est important. Mais évidemment, vous le savez, les salariés sont payés à 84%. Et pour des petits salaires, où on n'arrive déjà pas à finir la fin du mois avec 100%, il y a besoin aujourd'hui, parce que ça fait maintenant 6 mois, 7 mois, 8 mois, c'est pas possible. Donc on pourrait, et c'est ce qu'on nous proposons, de solliciter par exemple des assurances, les banques, qui elles n'ont pas souffert de la crise.
Mais globalement, oui, mais est-ce que ça sauve des emplois? Là vous me parlez du pouvoir d'achat, est-ce que globalement tous ces filets, ça sauve des emplois à votre avis?
Ça en sauve, mais c'est 600 à 700 000 emplois qui ont déjà été supprimés. Par exemple, les emplois précaires. On voit bien qu'il y a besoin d'un débat, d'un autre débat sur la qualité de l'emploi. Et les emplois précaires, c'est souvent les jeunes. On parle beaucoup des jeunes, mais les emplois précaires et l'intérim, c'est souvent les jeunes. Donc là aussi, il faut parler de la qualité de l'emploi. Ce qui prépare un avenir, c'est le CDI, pas le CDD ou l'intérim. Voilà des débats qui mériteraient plus d'insistance de la part du gouvernement.
Alors justement, la qualité de l'emploi, il y a un gros débat en ce moment au sein des partenaires sociaux sur le télétravail. Vous n'y arrivez décidément pas. Hein. Hier, il devait y avoir une réunion ça devait être la dernière. Elle a débouché en fait sur une nouvelle date pour une ultime réunion. Ça sera le 22 septembre. Encore le patronat, les syndicats. Est-ce que la CGT y sera?
Mais on y est depuis le début, premièrement. Et pour
la CFTC n'y ira pas.
Hein. Pour l'instant, c'est pas une négociation. Enfin, faut remettre les choses à l'endroit. Vous dites les partenaires sociaux, c'est le MEDEF qui ne veut pas de négociation sur un accord national. Tous les syndicats la veulent. On fait un diagnostic. Bon, on va pas faire des diagnostics pour toutes les questions. Le télétravail, c'est pas nouveau, ça existe. Il y a un accord national d'ailleurs interprofessionnel sur le télétravail. Par contre, il faut prendre en compte un certain nombre de réalités qu'on ne connaissait pas il y a une dizaine d'années et les intégrer. Ce qui s'est passé durant le confinement, c'est pas du télétravail, c'est du travail à la maison où on doit partager son ordinateur avec son conjoint ou sa conjointe, avec ses enfants. Voilà, quand on travaille, on fait pas autre chose à côté, on s'occupe pas de ses gosses, on fait pas je ne sais quoi, on travaille. Et quand on travaille, le télétravail, c'est pas 12 heures d'affilée non plus. Donc vous voyez qu'il faut encadrer un certain nombre de choses. Et c'est le MEDEF qui n'en veut pas.
Alors le climat social, dans tout ce contexte-là...
Il est tendu, parce que y a deux préoccupations majeures. C'est la question de la santé, et ça c'est essentiel. Et les salariés sont évidemment affectés par ça. Et puis il y a la question de l'emploi. Il y a une troisième chose, parce que nous on insiste là-dessus, c'est les mesures sociales, la question des salaires. Les premiers de corvée, comme on les a appelés, ils sont toujours payés, comme au mois de février. Et pourtant, on a dit, et à juste titre, qu'ils étaient essentiels pour l'économie. Et puis, la question, vous en avez parlé tout à l'heure, la question du temps de travail. Ça devrait interpeller tout le monde qu'en Allemagne, où on dit que les syndicats sont raisonnables, etc., que ne dit-on sur l'IG Metall, eh bien, eux aussi réfléchissent sur la question de la réduction du temps de travail. Parce que si on veut que tout le monde travaille, on peut pas faire travailler plus ceux qui ont déjà du boulot.
Aujourd'hui, il y a une mobilisation, vous le savez, les Gilets jaunes. Mmh. Il y a 2 ans, ils avaient réussi à cristalliser une colère, et c'était notamment au sujet du pouvoir d'achat. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, ils peuvent fédérer encore?
Les Gilets jaunes ont cristallisé les mêmes colères que celles que développent les syndicats. Mmh. La question des services publics, la question de la mobilité, la question des salaires, la question de l'emploi, toutes ces questions sociales, d'ailleurs, que la Convention citoyenne a aussi mis en avant, puisque c'était issu de ces mobilisations. Donc, comme je vous le disais, les problèmes d'hier restent les problèmes d'aujourd'hui avec cette pandémie, mais les problèmes restent les mêmes et les solutions à travers le plan de relance ne sont pas les bonnes.
Et vous, le 17 septembre, hein, c'est jeudi prochain, vous appelez à une autre mobilisation. À la SNCF, ça va donner lieu à une grève.
Vous polarisez tous sur la SNCF. C'est une appel à mobilisation de plusieurs syndicats dans l'ensemble des professions publiques, privées. Il n'y a pas qu'à la SNCF.
Est-ce qu'en pleine pandémie, on a besoin de conflits sociaux et d'une grève à la SNCF?
Mais qui génère ces conflits sociaux? Est-ce que les salariés d'Auchan dont on parlait, ils ne doivent rien faire alors qu'on annonce 1500 suppressions d'emplois et que leur patron est parmi les plus riches de France? Moi, je vous pose la question à l'inverse. On se laisse faire ou on essaie de se défendre? Eh bien, moi, je pense que tous les salariés, il y a des mobilisations tous les jours, vous savez, dans de nombreuses professions.
Le style Castex, Matignon, ça a changé quelque chose dans vos rapports?
On a plus souvent les ministres au téléphone, mais les actes sont les mêmes que sous le gouvernement précédent. Ils nous appellent plus souvent. Ça doit être ça.
Ils vous écoutent pas plus?
Ah non. C'est pas parce qu'on se parle qu'on écoute, vous savez.
Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. On vous a entendu. Merci d'avoir été
Merci
sur France
à vous.
Inter. Sandrine Foulon, Ma vie au boulot, les députés vont débattre, ça sera mardi, de la proposition de loi de la majorité pour étendre à une trentaine de collectivités l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Alors, vous demande Jean-Pierre, dans les Deux-Sèvres, si l'idée est bonne, pourquoi 30 et pas beaucoup plus?
Jean-Pierre, vous devez bien connaître le sujet. Les Deux-Sèvres, Mauléon en particulier, font partie des 10 territoires pilotes qui, depuis 4 ans, essaient d'éradiquer le chômage de longue durée. Le principe est simple. Au lieu de verser des allocations à des chômeurs qui restent chez eux, cette somme est redistribuée à des entreprises à but d'emploi qui les recrutent en CDI au SMIC. À charge pour eux de développer des activités, des services à la personne, du recyclage, des activités qui ne concurrence pas les entreprises locales. Un millier de personnes ont pu sortir du chômage de longue durée. En moyenne, elles étaient restées 4 ans et demi loin de l'emploi. Donc oui, Jean-Pierre, pourquoi ne pas étendre le dispositif aux 120 communes qui frappent à la porte, plutôt que de fixer un nombre précis? Le comité scientifique qui évalue l'expérimentation préconise d'en faire bénéficier les territoires suffisamment matures. Suffisamment matures, ça veut dire des collectivités qui vont s'entendre sur le projet et savoir où elles mettent les pieds, parce qu'il faut souvent investir dans des locaux, dans du matériel pour accueillir ses salariés.
Oui, il y a quand même cette question du financement. Hier, Sandrine, dans Les Échos, c'est l'économiste Pierre Cahuc qui parlait de coûts exorbitants et de mauvais ciblage des personnes choisies.
Pierre Cahuc, qui fait aussi partie du comité scientifique, reprend les chiffres d'un rapport IGAS-IGF. Le coût annuel pour les finances publiques ne serait pas de 18 000 euros par personne, mais de 25 000 euros. Alors oui, il a raison, ce n'est pas neutre, comme l'avaient imaginé les porteurs du projet. Oui, ça ne génère pas autant d'économies que prévu, parce que dans ces chômeurs, certains ne touchaient aucune prestation sociale, ni RSA, ni chômage. Mais faut-il se réjouir que ces personnes sortent enfin des radars ou n'embaucher que celles qui sont inscrites à Pôle emploi? Et oui, il y a toute une série de points à améliorer. Et alors, tout ça n'est pas grave, il faut continuer et élargir l'expérimentation. C'est ce qu'a répété l'économiste Olivier Bouba-Olga, le président du comité scientifique qui a été auditionné par les parlementaires. À part Pierre Cahuc, très critique sur la mesure, les membres du comité convergent majoritairement sur ce point. D'autant qu'il est difficile de quantifier tous les bénéfices du retour à l'emploi. Une personne qui retrouve un boulot est moins malade, c'est ça de moins pour la sécu. Un emploi préservé dans une commune, c'est une classe qui ne ferme pas, une boulangerie qui rouvre. Regard du coût exorbitant des 35 milliards d'euros du plan de relance pour l'emploi et la cohésion des territoires qui vont subir la crise, il y a sans doute une place pour ceux qui ne veulent plus des chômeurs de longue durée.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.
On n'arrête pas l'écho avec Business Energy, les solutions entreprises et professionnelles de la Banque Postale. Conditions sur la banquepostale.fr.